Euthydème se tut, mais Dionysodore interrogea Ctésippe sur ce qu'il avait répondu à la question antérieure. « Te semble-t-il que ce soit un bien que d'avoir de l'or ?»« Sans doute, répondit Ctésippe, et beaucoup. Et n'es-tu pas persuadé qu'il faut avoir toujours et partout les bonnes choses ?»« Oui, et très fort. Or, tu avoues que l'or est un bien ?»« Oui, je l'ai avoué. Il faut donc l'avoir toujours et partout, et surtout avec soi. » Ainsi, celui-là serait le plus heureux qui aurait 3 talents d'or dans le ventre, 1 talent dans sa tête et 1 stater d'or dans chaque œil. On dit en effet, Euthydème, reprit Ctésippe, que parmi les Scythes, ceux-là sont estimés les plus riches et même les plus gens de bien qui ont le plus d'or dans leur crâne. Pour parler comme toi, qui disais tout à l'heure que le chien était mon père, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'ils boivent dans leur crâne doré, qu'ils voient dedans et tiennent leur front dans leurs mains. Euthydème reprenant la parole. Un Scythe ou un autre homme, Ctésippe, voit-il ce qu'il peut voir ou ce qu'il ne peut pas voir? Il voit ce qu'il peut voir. Et toi aussi, Ctésippe. Et moi de même. Ne vois-tu pas nos habits? Oui. Ils sont donc en vue et ils ont de la vue. À merveille, dit Ctésippe. Et quoi? Demanda Euthydème. Rien. Tu es pourtant, je pense, assez bon pour croire qu'il ne voit pas. Mais en vérité, Euthydème, on dirait que tu rêves tout éveillé. Et s'il est possible de parler sans rien dire, tu en es bien capable. Là-dessus, Dionysodore demanda à Ctésippe. « Il est donc impossible de parler quand on ne dit rien. »« Impossible. »« Et de se taire quand on parle. »« Moins possible encore. »« Quand tu dis une pierre, du fer, du bois, ne dis-tu pas ce qui se tait ?»« Je ne dis pas cela du fer, » répondit Ctésippe. « Quand, en passant dans une forge, je dis du fer, si on le heurte, je dis une chose qui retentit et qui crie. »« Ainsi, cette fois, pour être trop sage, tu n'as pas vu que tu ne disais rien. » Mais prouvez-moi maintenant le reste, que l'on peut se taire et parler à la fois. Ctésippe me parut alors rassembler toutes ses forces pour plaire à son jeune ami. Euthydème commença. Quand tu te tais, ne tais-tu pas toutes choses? Oui. Tu tais donc aussi les choses qui parlent, car les choses qui parlent sont du nombre de toutes les choses. Mais, repartit Ctésippe, toutes les choses se taisent-elles? Non, certainement, dit Euthydème. Elles parlent donc toutes, mon cher ami. Celles qui parlent. « Ce n'est pas ce que je demande, dit Ctésippe, mais si toutes les choses se taisent ou si elles parlent. »« Ni l'un ni l'autre, et tous les deux ensemble, répartit Dionysodore, se mêlant de la dispute. »« Et je suis sûr que tu ne sauras qu'opposer à cette réponse. » Ctésippe, selon sa coutume, fit un grand éclat de rire. « Oh, Euthydème, s'écria-t-il, ton frère prête le flanc à une double réfutation. Il est perdu et battu de tous côtés. » Clinias, prenant plaisir à ce discours, sourit à Ctésippe qui, se redressant, en parut 10 fois plus grand. Pour moi, je crois que l'adroit Ctésippe avait appris leurs secrets à force de les entendre eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas sur terre leur paille en ce genre. Là-dessus, je m'adressai à Clinias et lui dis « Pourquoi rais-tu en des choses si sérieuses et si belles ?» Aussitôt, Dionysodore « As-tu vu, Socrate, me dit-il, quelques belles choses ?»« Oui, lui répondis, j'ai plusieurs. »« Était-elle autre que le beau » ajouta-t-il, « ou si ce n'était que la même chose ?» J'étais tout embarrassé à cette question et je me crus justement puni pour m'être avisé de dire un mot. Je répondis cependant. Elles sont autres que le beau même, mais avec chacune d'elles se trouve une certaine beauté. Tu serais donc bœuf si un bœuf se trouvait avec toi. Et es-tu Dionysodore parce que je me trouve avec toi? De grâce, pas de pareille impiété, lui dis-je. Mais comment, dit-il, ce qui est autre se trouvant avec un autre, ce qui est autre serait-il autre? En doutes-tu, lui dis-je, me hasardant à imiter la sagesse de ces étrangers que je désirais tant acquérir. Pourquoi moi et le reste des hommes, répondit Dionysodore, ne douterions-nous pas d'une chose qui n'est point? Que dis-tu, Dionysodore? Le beau n'est-il pas beau et le laid n'est-il pas laid? Oui, si je le veux. Mais ne le veux-tu pas? Oui, je le veux. Ainsi, le même n'est-il pas le même et ce qui est autre n'est-il pas autre? Car assurément, ce qui est autre n'est pas le même. Pour moi, je n'eusse pas soupçonné un enfant de douter que ce qui est autre ne soit autre. Mais Dionysodore, je vois bien que tu as passé là-dessus à dessein, puisque dans le reste, vous n'avez manqué à rien de ce qu'il faut à un bon discours, comme de bons ouvriers font tout ce qui convient à leur métier. Sais-tu, me dit-il, ce qui convient de faire à chaque artisan? D'abord, à qui convient-il de forger? Je le sais, au forgeron. À qui de pétrir la terre? Au potier. À qui convient-il d'égorger, d'écorcher, de faire bouillir et retirer la chair après l'avoir coupée en morceaux? Au cuisinier. Et celui qui fait ce qui convient fait bien, fort bien. Tu es écorché, as-tu dit, convient au cuisinier. Ne l'as-tu pas accordé? Hélas, oui, mais pardonne-moi. Il est donc évident que celui qui égorgera, qui écorchera le cuisinier pour le faire bouillir et retirer ensuite, fait ce qui convient. De même, celui qui frappera sur le forgeron et qui pétrira le potier. Ô Neptune, m'écriai-je, maintenant tu es arrivé au comble de la sagesse. Ne pourrais-je jamais y arriver et l'acquérir pour moi-même? Mais quand tu l'aurais acquise, Socrate, la connaîtrais-tu? Si tu le trouves bon, je pense que oui. Tu crois donc, continua-t-il, connaître ce qui est à toi? Assurément, pourvu que tu ne dises pas autre chose, car tout dépend de vous deux, à commencer par toi et à finir par Euthydème. Crois-tu que les choses dont tu es le maître, dont tu peux user comme il te plaît, soient à toi? Crois-tu par exemple que les bœufs et les brebis que tu peux donner, vendre, sacrifier à celui des dieux que tu voudras, soient à toi, et que les choses dont tu ne peux disposer de la sorte ne t'appartiennent pas? Moi qui me doutais bien que cette demande allait produire quelque magnifique artifice, pour l'entendre aussitôt que possible, je me hâtais de lui répondre que je croyais que les premières étaient seules à moi. N'appelles-tu pas animal ce qui a une âme? Oui, lui dis-je. Tu avoues que les animaux dont tu peux faire ce que je viens de dire sont seuls à toi. Je l'avoue. Dionysodore s'arrêta là malicieusement et feignit de rêver à quelque raisonnement profond. Puis il continua. Dis-moi, Socrate, n'as-tu pas un Jupiter paternel? Me doutant qu'il en voulait venir ou effectivement il en vint, je cherchais un détour. Et comme pris au filet, je voulus me retourner en répondant. Je n'en ai point, Dionysodore. Vraiment, me répliqua-t-il. Il faut que tu sois bien misérable et que tu ne sois pas athénien pour n'avoir ni Dieu, ni sacrifice paternel, ni toutes ces autres belles choses. Doucement, Dionysodore, lui dis-je, pas de paroles de mauvais augure et ne me reprends pas si rudement. J'ai des autels, des sacrifices domestiques et paternels. Enfin, en ce genre, rien ne me manque de tout ce que possèdent les autres Athéniens. Eh bien, répliqua-t-il, les autres Athéniens n'ont-ils pas un Jupiter paternel? Ce nom n'existe pas chez les Ioniens, lui répondis-je, ni dans les colonies d'Athènes, ni à Athènes. Mais nous avons un Apollon paternel, parce qu'il est père Dion. Jupiter n'est pas ainsi appelé chez nous, mais il s'appelle domestique et protecteur des tribus, comme Minerve s'appelle aussi protectrice des tribus. Cela suffit, dit Dionysodore. Tu as donc un Apollon, un Jupiter et une Minerve. Il est vrai. Ne sont-ce pas tes dieux? Ce sont nos aïeux, lui dis-je, et nos maîtres. Mais ils sont à toi, ne viens-tu pas de l'avouer? Oui, lui dis-je, car comment faire? Ces dieux ne sont pas des animaux, car tu as avoué que tout ce qui porte une âme est un animal. Et ces dieux ont une âme, sans doute. Ils en ont une? Ils sont donc des animaux? Oui, des animaux. Or, tu disais que parmi les animaux, tu peux à ton gré donner ceux qui sont à toi, les vendre, les sacrifier à quelque dieu. Je le confesse, Euthydème, car il ne m'est plus possible d'échapper. Bien donc, me dit-il, puisque tu prétends que Jupiter et les autres dieux sont à toi, il t'est donc permis de les donner, de les vendre ou d'en faire tout ce que tu voudras comme des autres animaux. Accablé par ce raisonnement, crie-t-on, je me tus. Thésée voulut accourir à mon secours. « Bon Dieu, Hercule ! S'écria-t-il, l'admirable logique !» Aussitôt Dionysodore, « Comment Hercule est-il bon Dieu ou bon Dieu est-il Hercule ?»« Ô Neptune ! S'écria Ctésippe, quelle formidable science ! Je quitte la partie, ces gens-là sont invincibles !»